un podcast France Culture.
Au Louvre, dans les salles des antiquités égyptiennes, le visiteur découvre une fente dans un mur, l'étroite entrée d'une chapelle funéraire, celle d'Akhetetep, un personnage éminent qui pouvait se targuer de la qualité d'ami unique du roi, ou encore du beau titre de chef des secrets de la maison du matin. Akhetetep, voici plus de 4000 ans, prépara soigneusement son voyage cosmique qui devait lui permettre de rejoindre dans l'éternité les dieux et les étoiles. C'est à cette fin qu'il fit construire cette chapelle. Elle est ornée par l'agitation frémissante de splendides bas-reliefs qui semblent moins parler de la mort que de la vie. Pourtant, trois ouvertures, feintes ou réelles, interrompent ces frises et sont sans doute l'énigmatique raison d'être de ce splendide mastaba. Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Tombeau pour perpétuer les plaisirs, ou porte vers le ciel. Le mastaba d'Akhetetep.
Bonjour Vincent Rondeau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du prestigieux département des antiquités égyptiennes au Louvre. Racontez-nous ce que signifie ce poème cosmique qu'est le mastaba d'Akhetetep. Dites-nous vers quel pays, quel royaume conduisent les portes qui y sont simulées. Mais peut-être auparavant, en guise d'introduction, racontez-nous comment un tel monument a pu se retrouver au Louvre au prix, j'imagine, d'immenses efforts.
Oui, d'immenses efforts historiques, parce que ce monument dans les collections du Louvre est un des témoignages les plus émouvants peut-être de la mise en place d'une protection du patrimoine égyptien. Au sens où nous sommes donc en début des années 1900, il faut bien comprendre que Saqqara, d'où viennent les murs décorés de cette chapelle de mastaba, est à une journée de route du Caire. Donc c'est une région très isolée et qui de ce fait, parce que l'intérêt pour les antiquités égyptiennes est de plus en plus grand, est exploité par des familles qui vivent sur place et qui font des fouilles et vendent les reliefs qu'elles trouvent en fouillant le site de Saqqara.
Alors Saqqara, c'est la grande nécropole qui se trouve à quelques kilomètres du Caire.
Une quarantaine de kilomètres du Caire, c'est la très grande nécropole de la ville de Memphis, qui est une des principales capitales d'Égypte, à la fois religieuse et administrative, mais également économique et militaire. On appelait cette région, avant de la désigner par Saqqara, la momie. La momia, tellement il y avait de momies qui avaient été sorties des tombeaux. Et du coup, l'endroit était connu pour regorger d'antiquités. Et le service des antiquités, tout nouvellement créé, hein, il date de 1858. Et il a été fabriqué, mis en place par Saïd Pacha, le vice-roi, assisté d'Auguste Mariette, l'un des fonctionnaires étrangers, français en l'occurrence, qu'il avait recruté. Donc, le service des antiquités, le service de protection du patrimoine, cherche des solutions pour enrayer cette exploitation à tout va du site archéologique. Et elle a du mal, elle n'a pas assez de gardiens, ses gardiens n'ont pas assez d'autorité. Et il est décidé que que le service d'antiquités lui-même va procéder à des fouilles scientifiques, va identifier des tombeaux qui pourraient intéresser des musées étrangers et les vendre à ces musées de façon, si vous voulez, à ce que c'est ce pillage bloc à bloc. Et de fait, ce sont beaucoup de musées européens et américains qui comptent un mastaba ou un décor d'une pièce de mastaba. C'est ça qu'il faut comprendre. Le mastaba, si vous voulez, c'est le mot arabe vernaculaire d'Égypte qui est utilisé, ça veut dire un banc, qui est utilisé pour désigner ce bâtiment, parce que ça ressemble en effet à un banc de pierre massif et colossal. On voyait toujours les hommes de l'Antiquité comme de taille colossale. Et du coup, ce mot-là est resté dans notre vocabulaire, dans celui des archéologues et des visiteurs des musées. C'est en fait un tombeau typique réservé à l'époque de l'Ancien Empire. Et principalement, pour illustrer la chose clairement, les règnes de Khéops, Khéphren, Mykérinos. Et après. Khéops, Khéphren, Mykérinos, nous sommes à la 4e dynastie. Cette chapelle dont nous parlons, celle qui est au musée du Louvre, date de la 5e. Et à cette époque-là, les hauts fonctionnaires, les très hauts fonctionnaires, la cour du roi se fait enterrer autour de la pyramide du roi, dans des mastabas, qui sont installés dans des espèces de villes, littéralement, parce qu'ils sont les uns contre les autres, avec des ruelles étroites qui les séparent. Il faut qu'on puisse avoir accès à ces chapelles. Et chaque fonctionnaire est comme ça, au pied de la tombe de son roi. Et ce que nous avons au Louvre, dans les collections du Louvre, ce que nous appelons le mastaba d'Akhetetep, c'est en fait la chapelle du mastaba d'Akhetetep. Parce que la conception funéraire des anciens Égyptiens comprend que la vie ne sera éternelle que s'il y a un culte funéraire. Il est nécessaire que le mort reçoive des offrandes, en théorie chaque jour, pour pouvoir vivre éternellement.
Et la chapelle que vous avez, que nous avons au Louvre, était effectivement ouverte.
Elle était ouverte.
Aux personnes qui venaient rendre le culte.
Exactement, à la famille donc. Et puisque la famille était puissante, riche, la famille était à même de payer des prêtres spécialisés pour assurer le rituel quotidien, si vous voulez, venait à l'occasion des fêtes importantes.
Revenons à la découverte pour le Louvre, puisque là nous avons ce schéma de la chapelle que l'on va trouver, mais comment l'a-t-on trouvée? Quand était-ce? Dans quelles circonstances?
Du coup, dans ce contexte que je vous ai décrit de proposition par le service d'antiquités égyptien, le Louvre un jour se porte candidat à l'acquisition d'une chapelle de mastaba. C'était donc les autorités du patrimoine égyptien qui procédaient aux fouilles, qui dégageaient les mastabas, et ensuite on disait à telle conservation avec qui on était en contact, vous pouvez venir, on a 3 mastabas à vous proposer, c'était le cas pour le Louvre, vous pourrez choisir parmi ces 3 chapelles. Et du coup, on envoie le conservateur Georges Bénédicte, qui était alors conservateur au département des antiquités égyptiennes, au Caire, pour voir ses homologues égyptiens et français sur place, puisque la direction du patrimoine égyptien est à l'époque assurée de tradition par un Français. Et du coup, on lui présente 3 mastabas. Et parmi les 3, il y a celui d'Akhetetep, dont il reconnaît tout de suite la qualité extraordinaire des reliefs. Il a un réflexe, si vous voulez, à la fois histoire de l'art et scientifique, c'est-à-dire que les deux éléments sont contenus dans cette chapelle. Elle a une qualité artistique, donc on est devant un chef-d'œuvre digne du Louvre, en même temps que dans cette égyptologie naissante, scientifiquement, c'est formidable.
Écoutons la lettre qu'il envoie à l'un de ses collègues à ce moment-là. «
Le Caire, ce 31 mars 1903. Mon cher ami, vous savez probablement déjà que je tiens enfin le tombeau rêvé. C'est le quatrième de ceux que j'ai fait déblayer et devant un si remarquable spécimen, j'ai fait arrêter les recherches. Il est typique par la forme, le style et les représentations et il prend place parmi les plus beaux monuments connus. Il ne le cède que pour les dimensions au tombeau de Tchi et Ptahotep. Vous pouvez donc juger d'après cela que c'est une petite merveille. Comme il est en bon état et que les couleurs sont suffisamment conservées, la grande affaire maintenant va être de l'extraire, de le débiter en tranches et de l'emballer de la façon la plus minutieuse. Et je n'épargnerai rien pour cela. Chaque bloc, après avoir été retaillé de manière à perdre une notable partie de son poids inutile, sera emmitouflé dans un épais vêtement d'ouate et mis en caisse dans de bonnes planches. Je vais présider à tout cela moi-même. Bien cordialement. Georges Bénédite, conservateur adjoint au département des Antiquités égyptiennes.
Et ce transport considérable est donc arrivé au Louvre et a dû être installé difficilement.
Voilà, il a été installé difficilement, c'est des opérations tout à fait exceptionnelles. Et dans notre département, on compte que très peu, enfin on a deux monuments, il y a la chapelle des ancêtres de Carnac également, présentée aux visiteurs. Et la première solution trouvée pour un monument pareil, c'est de l'exposer au pavillon des sessions, ou pavillon des états, celui aujourd'hui où sont exposés les arts premiers. Il est installé là-bas en 1905 jusqu'en 1932. Parce que là, il y a un événement considérable à l'échelle du musée du Louvre, c'est ce qu'on appelle le plan Verne. Le directeur des musées nationaux de l'époque, Verne, décide d'installer des parcours de visite qui n'imposent pas aux visiteurs de sortir du bâtiment à chaque fois. Et du coup, on déplace le mastaba pour le mettre à l'entrée de ce qui va devenir le département des Antiquités égyptiennes.
Mais ça n'était pas fini, vous avez fait encore une modification.
Et donc, en 2015, la direction du Louvre, pour des raisons techniques, nous annonce qu'il va falloir déplacer le mastaba.
Ce qui est fait.
Ce qui est fait. Et du coup, j'y vois forcément une opportunité extraordinaire de revoir la muséographie du mastaba. Parce qu'il avait été installé en 1934, lors du plan Verne, avec une option qui était intéressante, qui était de baisser toute la hauteur de ce petit monument de façon à ce que les reliefs soient plus accessibles à l'œil, soient plus directement à hauteur de visiteurs. Sauf que ce faisant, si vous voulez, on perdait toute la monumentalité égyptienne, pharaonique, de ce tombeau. On perdait cela et puis aussi la forme qui avait été donnée, parce qu'on avait économisé la pierre au pourtour des blocs anciens, on avait l'impression d'une petite boîte, ce qui donnait une impression tout à fait erronée sur ce qu'était le bâtiment. Et par ailleurs, le Louvre et le département des antiquités égyptiennes avaient entrepris de 1992 à 2007 des fouilles considérables pour retrouver le lieu d'origine qui était perdu.
C'est curieux qu'il ait été perdu. Bénédicte n'ait pas laissé l'indication exacte.
Alors, il n'a pas laissé l'indication exacte parce qu'on était, à l'époque, on n'était pas encore en capacité de garder la mémoire dans un tel site des localisations topographiques. Enfin, la capacité technique, oui, mais pas financière. Ou
un manque de GPS, peut-être.
Exactement, un manque de GPS incontestable. Et du coup, comme ça arrive souvent, d'ailleurs, la localisation exacte était perdue. On avait une indication grâce à des travaux de Mariette, mais rien de plus.
Alors, il faut que nous rentrions maintenant dans ce mastaba qui est quand même d'une vitalité incroyable, avec une qualité qui a tout de suite été remarquée par Bénédicte. On a autour de nous toute la vie égyptienne. C'est la commémoration de la vie telle que la connaît quelqu'un qui est un défunt, ou est-ce que c'est une annonce de ce qu'il va découvrir? Au fond, on a l'impression que le sculpteur a mis en vie tout le mastaba.
Voilà, je pense que la description que vous faites rend compte de toutes les préoccupations des anciens. C'est-à-dire que il y a un point qui fédère toutes les représentations de l'Antiquité égyptienne, c'est qu'elles sont hiéroglyphiques. Ils ne font pas de différence entre l'image et le hiéroglyphe.
C'est consubstantiel. D'ailleurs, là, on voit les silhouettes avec des hiéroglyphes juste à côté. On a l'impression que l'un et l'autre sont consubstantiels.
Absolument. Il y en a un qui légende l'autre et l'autre qui illustre la légende. Et il y a ce rapport-là est constant, quelle que soit la représentation. Et du coup, le mastaba, si vous voulez, est à la fois une représentation fidèle de la vie de tous les jours et en même temps, comment on dirait, on pourrait dire un outil tout à fait efficace par le pouvoir du verbe. Hein, ça, c'est le pouvoir du verbe sémitique, tout simplement.
Qui fait réellement vivre les choses
d'un point de vue magique. On les nomme, elles viennent à la vie, elles existent. Et du coup, représenter toutes ces activités des champs qui contribue ensuite à transformer les récoltes en aliments, à transformer l'élevage en aliments, à transformer la chasse aux animaux sauvages en aliments, deviennent autant de moyens d'approvisionner la table d'offrande du défunt.
Comme si c'était un domaine en activité avec le lin qui va devenir du tissu, les animaux de la savane qui vont être utilisés ou chassés, etc.
Absolument, c'est un territoire et même, on pourrait dire un territoire au sens tout à fait administratif du terme parce que c'est aux personnages de l'État. Ils reçoivent des terres. Il n'y a pas de monnaie dans cette civilisation, donc tout est en nature. Et du coup, ils bénéficient de donations de terres dont les revenus permettent d'alimenter, au sens tout à fait matériel du terme, la table d'offrande. Et donc, il y a des processions là, dans le mastaba, qui sont fort belles d'ailleurs, où sont des femmes qui portent des grandes corbeilles de fruits et qui ne sont pas des femmes, mais des représentations des domaines funéraires qui contribuent à alimenter la table d'offrande du défunt.
Vous voulez dire chaque femme qui est là, portant ces offrandes, représente l'un des territoires
exactement.
Qui appartient au mastaba. C'est le domaine, au
exactement,
fond,
et les hiéroglyphes donnent le nom du territoire. Donc imaginez, on a des lieux dits pour des périodes qui remontent à 2500 avant Jésus-Christ.
Alors ce qui est saisissant, c'est le nombre de détails. Il n'y a pas un nœud qui manque, une technique pour ouvrir, dépecer la patte d'un animal qui ne soit pas décrite précisément. Chaque poisson est infiniment reconnaissable.
Exactement, et on a les noms latins de tous les poissons.
Il y a une raison symbolique à cette précision?
Oui. Enfin, symbolique. Il y a une raison vitale, je dirais plutôt, qui est que la création est divine. Elle a été produite par les dieux. C'est les dieux qui ont produit la création. Au point que, par exemple, l'écriture n'est pas inventée par le dieu Thoth. Elle est découverte par le dieu Thoth dans la création. Et du coup, l'exactitude s'impose. L'exactitude, mais la perfection également. Puisque la création divine ne peut être que parfaite.
Il faut dire qu'on est à un moment, à cette fin de l'Ancien Empire, où la construction théologique est de plus en plus parfaite. Et on mentionne très souvent que Hatshepsut est un ritualiste. Ça veut dire qu'il est lui-même extrêmement au fait de ces aspects théologiques.
Absolument. Absolument. Il n'y a pas de séparation, si vous voulez, dans les carrières, on l'observe. Ensuite, elles vont se spécialiser une fois plus tard. Mais à cette époque-là, il n'y a pas de spécialisation entre le civil et le religieux. On a des titres qui relèvent du civil en même temps que des titres qui relèvent du religieux très facilement. Et il était très proche du pharaon lui-même. On sait qu'il avait une responsabilité dans cette proximité avec le roi, dans la protection magique de son souverain. Par sa connaissance, évidemment, des rituels, par sa pratique de gestion des couronnes royales, qui sont autant de puissances magiques, chargées de protéger le souverain, etc. etc. Donc oui, le côté ritualiste et l'expertise d'Akhetep dans ce domaine sont incontestables.
Alors, il y a dans ce mastaba ces trois ouvertures dont j'aimerais bien que l'on parle. Oui. L'une par laquelle la statue observe, c'est-à-dire Akhetep lui-même, observe les cérémonies.
Alors, oui, c'est-à-dire qu'on appelle ça, et ça c'est un des points les plus, peut-être les plus intrigants, en même temps qu'il est, je le dis avant de le décrire, assez trivial. C'est-à-dire que les anciens Égyptiens ont prévu dans les mastabas un espace que là aussi, selon un mot que la tradition archéologique a repris, le serdab. C'est-à-dire que il y a une pièce aveugle, petite pièce aveugle, qui contient des statues, pas une seule, mais des statues du défunt, et des membres de sa famille, le cas échéant, enterrés après lui. Parce qu'on va le voir, la grande affaire, c'est que finalement, l'âme du défunt puisse reconnaître son tombeau. On va voir pourquoi. Et du coup, cette statue, qui est dans sa cache, dans son logement aveugle, il n'est pas tout à fait aveugle, puisqu'il y a une meurtrière qui permet aux yeux de la statue placée à l'intérieur de son logement, en effet, d'assister au culte funéraire dont elle bénéficie. Et à l'âme, à sa propre âme, de le reconnaître en se déplaçant dans le tombeau. Parce que la deuxième ouverture sur les trois dont vous parlez, ce sont ce qu'on appelle les fausses portes. Il y en a deux ici, normalement il n'y en a besoin que d'une. Mais bon, là, il y en a deux, qui sont des simulacres des portes, des hiéroglyphes de portes, puisqu'elles sont fermées. Mais on voit les deux battants.
Il y a un relief, néanmoins.
Il y a un relief, oui. Il y a les montants, il y a tout cela. En tout cas, c'est des portes que, si nous ne pouvons les franchir, l'âme du mort le peut. Parce que derrière cette fausse porte se trouve le puits funéraire, qui peut descendre à très grande profondeur, entre 15-25 mètres parfois. Et du coup, l'âme, elle, et après l'inhumation, le puits est complètement rempli de gravats. Mais l'âme, elle a tout à fait le pouvoir, depuis le tombeau et la momie d'Akhetep, de remonter à travers ce puits, de passer par la stèle fausse porte, et de venir se poser sur la table d'offrande, recevoir les offrandes funéraires qui lui sont faites, en théorie, journellement.
Puissante table d'offrande qui est installée au Louvre, juste à côté du mastaba.
Absolument.
Et sur laquelle on voit le repas servi.
Le repas servi. Présentation, là encore, on est du côté du hiéroglyphe en même temps que de la sculpture, cette fois-ci, sculpture en trois dimensions. Là encore, tout est prêt pour vivre magiquement, pour pouvoir, à travers la puissance du verbe, venir à l'existence, même une fois le culte révolu, si vous
donc,
voulez.
Donc cette porte fermée conduit soit au royaume des morts, soit au royaume des vivants.
Tout à fait, elle est dans les deux sens, mais elle n'est empruntable que par l'âme du défunt.
Pourtant, je croyais que l'âme du défunt était partie sur un bateau pour un voyage cosmique.
Alors, ces questions-là, qui sont d'une très grande complexité documentaire, à l'époque, ce sont des pèlerinages, ces voyages. Ce sont des pèlerinages que l'âme souhaite faire dans l'au-delà également. Parce que les anciens Égyptiens avaient finalement une vision très triviale de l'au-delà, très terre-à-terre, si vous préférez, tout à fait semblable à ce qu'est la vie ici-bas. Et du coup, les considérations eschatologiques qu'on connaîtra plus tard, en tout cas avec les tombes royales, et le désir des personnes privées de se joindre au destin de l'au-delà des rois eux-mêmes, elles sont beaucoup plus eschatologiques, beaucoup plus complexes. Mais pour le commun des mortels, à cette époque-là, en tout cas, l'Ancien Empire, la vie dans l'au-delà ressemble beaucoup à celle d'aujourd'hui.
Et bénéficier d'une telle sépulture est un vœu, j'imagine, essentiel pour les notables qui vivent autour de Pharaon.
C'est un vœu et puis un dû. Parce que, la part du vœu, elle est représentée peut-être par ce fameux tribunal d'Osiris, où il faut qu'on s'assure, dès qu'on franchit la porte de l'au-delà, c'est-à-dire dès qu'on décède, on va passer devant le tribunal d'Osiris, être jugé pour ses actions. Évidemment, tout le monde compte que le tribunal va être positif et va admettre le défunt aux côtés du dieu Osiris. Sinon, ce sont les enfers et personne ne se le souhaite. Et puis, c'est un dû, parce qu'on a affaire à quelqu'un de l'entourage direct du gouvernement de Pharaon, de la noblesse de Rome, si on peut faire cette comparaison. Et oui, c'est ces grands personnages... je suppose qu'à l'époque, considéraient qu'ils y avaient droit, oui.
Je suis persuadé que Arete Tepi a droit et qu'il pèlerine en ce moment dans les grands lieux sacrés de l'Égypte. Merci Vincent Rondeau.
Je vous en prie.
Nous voici ainsi face au paradoxe d'un tombeau qui, loin d'être funèbre, par le talent des artistes et la magie du verbe, s'anime et maintient Arete-Tep parmi nous les vivants, ce qui est exactement ce qu'espérait cet ami du pharaon, faisant réaliser avec grand soin le mastaba auquel il allait confier la survie de son âme.
Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Cet épisode a été consacré au mastaba d'Akhetetep, daté de la fin du 3e millénaire avant notre ère. Merci à notre invité, Vincent Rondeau, directeur du département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre. Lecture des textes, Clotilde M. et Michel Esco. Réalisation, Céline Terce. Prise de son, Éric Boisset, Antoine Viossa. Coordination, Camille Renard et Élodie Piel. Recherche, les équipes du Musée du Louvre. Une série à retrouver sur le site et l'application Radio France.